Avec David Abiker.
Ils sont chez eux dans le studio de Radio Classique, Nos Esprits Libres, Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate et ancien directeur du Monde. Bienvenue.
Merci David.
On va commencer par un début de polémique qui n'est pas anodine, cette polémique. Hier, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée des rabbins. Le grand rabbin de France a allumé la première bougie d'Hanouka, une fête juive. Et bien sûr, certains s'étonnent que l'Élysée devienne le lieu de cérémonies religieuses. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux? Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur le sujet. Je commence avec vous, Cécile.
Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que j'essaye de voir la cohérence. Il y a des gens qui sont partisans d'une laïcité ouverte et qui diront il faut mettre les crèches à Noël dans la rue quand on est un maire qui aime ça. Il faut participer à tous les événements religieux. Mais Emmanuel Macron avait plutôt eu tendance à vouloir dire la religion, on la laisse à l'espace privé. Et en tout cas, moi, président, je ne vais pas communier quand je vais à l'enterrement de quelqu'un, donc à faire vraiment la différence. Et là, recevoir à l'Élysée faire ce geste religieux qui est d'allumer la première bougie pour Hanouka, c'est un geste religieux. On voit qu'il le fait dans un souci d'équilibre. Il n'a pas été à la marche contre l'antisémitisme. Les sondages montrent que les Français restent favorables à Israël dans le conflit au Moyen-Orient et en France s'inquiète beaucoup des actes antisémites. Du coup, il fait ce geste à l'égard de la communauté juive. Moi, ça me pose problème. Je trouve que c'est pas un lieu, la laïcité, où on peut faire du en même temps, où on peut faire des équilibres comme ça. Pour des raisons un peu politiques.
Et c'est vrai qu'il est loin le temps où il y avait une sorte de chapelle aménagée à l'Élysée pour le général de Gaulle et tout y était prévu.
C'est un bureau maintenant.
Ouais. Mais bon, c'était pour un usage privé évidemment et tout à fait intime du général de Gaulle. J'ai retrouvé ça dans des archives ce matin. Jean-Marie Colombani, vous seriez plus indulgent vous?
C'est-à-dire, je comprends très bien la façon dont Cécile décortique l'attitude du président de la République. Moi, ça ne me gêne pas parce que, je veux dire, toutes les religions sont admises en France et que dans un moment comme ça, il reçoit les représentants de la communauté juive, il fasse ce geste. Je vois pas où il peut y avoir matière à polémique ou à contestation. Il est arrivé à des présidents de la République d'assister au jeûne de fin de Ramadan.
Emmanuel Macron.
Pas Emmanuel Macron, mais alors Emmanuel Macron, Cécile disait il faut chercher la cohérence, mais non, la cohérence chez Emmanuel Macron, c'est un peu peine perdue parce qu'il peut, son discours évolue en permanence. En effet, il cherche l'équilibre en permanence. Mais là, je ne vois pas en quoi on lui interdirait de faire ce geste au nom de la laïcité. De quelle conception si étroite de la laïcité se prévaut-on?
Je vous propose un cas d'école. Jean-Marie Colombani. Imaginez qu'ils reçoivent des imams ou des musulmans et que vienne l'heure de la prière. Vous imaginez des gens priant sur un tapis à l'Élysée?
Je vous parlais de la rupture du jeûne. C'est un geste qui manifeste qu'on considère la dite religion. Là, allumer une bougie, c'est on considère la dite religion. Ça n'est pas du tout... Là, vous poussez le bouchon un peu trop loin.
C'est vrai que je le pousse un peu loin.
Je ne pense pas que ce soit un geste religieux. C'est un geste de respect vis-à-vis des gens qu'il reçoit. Voilà. Pour moi, ça ne va pas au-delà. Et l'idée de polémiquer sur tout, à propos de tout, dès lors que Emmanuel Macron dit quelque chose ou fait quelque chose, je trouve que c'est trop.
Voilà. Et puis, il y a un Noël à l'Élysée, il me semble. Alors, c'est un Noël avec un sapin.
Il y a un Noël avec un sapin.
Il y a une tradition. Je ne sais pas si Emmanuel Macron fait toujours le Père Noël.
Il y a des crèches dans la ville. Ah ben le président de la République fait toujours le Père Noël.
Il fait toujours le Père Noël de l'Élysée,
il distribue les cadeaux.
Il n'y a pas de crèche à l'Élysée,
il peut y en avoir ailleurs dans la ville, dans certaines mairies, ainsi de suite. Je pense que si on laissait les choses se faire tranquillement, on serait un peu plus apaisé dans notre relation avec les dites religions.
Cécile Cornudet, vous avez cité un sondage tout à l'heure, sondage important publié par le Figaro avec le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est l'IFOP, l'institut de sondage. Deux tiers des Français considère que l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas est justifié. Deux tiers des Français, visiblement, malgré la propagande, notamment de l'extrême gauche, malgré les appels de ceux qui qualifient de génocide les attaques d'Israël sur Gaza, les Français estiment que la fin justifie les moyens. Votre commentaire à tous les deux.
malgré peut-être aussi un débat politico-médiatique qui laisse penser que c'est équivalent ou au moins mis sur le même plan. Eh bien non, alors qu'on est en pleine réplique Israël très dure, très très violente contre Gaza, les Français qu'on manifestement dans ce sondage continuent à penser que l'agressé c'est Israël et que les victimes aujourd'hui en France sont les Juifs. Donc c'est intéressant parce que je pense que ça remet un petit peu d'équilibre pour le coup dans le débat médiatique qui est peut-être un peu déséquilibré et tordu sur ce sujet.
Vous trouvez qu'il est déséquilibré et tordu sur le sujet, Jean-Marie Colombani?
Ce qui se passe, c'est qu'en effet, les Français ont bien conscience de l'origine de la guerre. L'origine et donne toute sa signification à cette origine. Sa signification, c'était une opération d'extermination qui visait à exterminer le plus de Juifs possible. Donc ça légitime complètement la guerre en retour. Simplement maintenant, ce qui se passe, c'est plus ça renvoie davantage à la composition et à la couleur du gouvernement israélien que toute autre chose. Parce que quand les Américains et le président de la République française, d'ailleurs, s'évertuent à dire il faut épargner les civils, il faut être plus, il faut laisser de la place à l'humanitaire, ce qui est très partiellement et très chichement fait. Il faut éviter ces bombardements qui rasent une ville et qui font des milliers de victimes civiles. Voilà, on ne peut que souscrire à cela. Et je pense qu'Israël prend des risques en termes d'opinion internationale, mais ça ne l'empêchera pas d'aller au bout, vraisemblablement.
Je trouve que les Français...
Mais si vous voulez, là, on est quand même devant quelque chose qui ressemble de plus en plus à une punition collective. La punition collective, ça n'est pas les démocraties. Ça n'est pas davantage la démocratie israélienne. C'est l'acte d'un gouvernement qui cherche l'annexion de la Cisjordanie. Vous voyez, donc, tout ça va revenir. Alors, il faut laisser le temps parce qu'il y aura une commission d'enquête et je pense que tout ça sera mieux exposé et sanctionné par les Israéliens eux-mêmes. Mais en attendant, on ne peut pas non plus nier cette réalité épouvantable qui se passe sur le terrain, tout en considérant que la réaction d'Israël était légitime. Il était légitime qu'Israël pourchasse le Hamas et cherche à le neutraliser autant qu'il est possible.
Ce qui est intéressant, c'est la bataille des opinions. Oui. Parce que on voit que notre population, elle, a un regard occidental sur ce qui est en train de se passer, mais partout dans le monde, même les pays qui du Moyen-Orient, d'Afrique, ont essayé de pactiser avec Israël, ils sont rattrapés par leurs opinions qui sont très opposées et qui sont très pro-Palestine et Gaza. Donc il y a une grande bataille Occident-Orient, si on peut dire, du point de vue des opinions, et les dirigeants sont obligés de s'adapter à leurs opinions.
Moi, je reste très perturbé par ce scénario. Il y a la journée du 7 octobre, il y a le massacre. Avant même qu'Israël réagisse, avant même qu'il y ait eu une réaction israélienne, il y a une explosion de l'antisémitisme, y compris en France. Ça, pour moi, c'est vraiment plus que perturbant.
Ça
signe une maladie profonde.
Ça aurait dû provoquer exactement la réaction
sociale, alors que ça aurait dû provoquer, au contraire, exactement une solidarité immédiate vis-à-vis de ceux qui étaient massacrés.
Il y a quelque chose qui est quand même rassurant, c'est qu'en fait, les Français, quand on leur pose une question précise, répondent assez précisément et avec pas mal de bon sens. Je suis sûr qu'il est certain qu'il ne se trompe pas quand ils disent il est bien normal qu'Israël s'en prenne au Hamas. Et je pense que si on leur demande est-ce qu'il faut éviter au maximum des victimes civiles dans les bombardements, ils diront oui aussi. Si on leur demande est-ce qu'il faut que les Palestiniens aient un État, ils diront oui aussi.
C'est sûr que les questions sont importantes. Là, c'est quand même le CRIF qui commande ce sondage.
Bien sûr, il faut le rappeler.
Les questions sont dans ce sens aussi.
Bien, on va passer à toute autre chose, le Jeux Olympiques bashing. C'est vous qui avez mis ce sujet sur la table, Cécile. Vous trouvez que quand ça va pas en ce moment, on invoque les Jeux Olympiques.
C'est devenu le sport national. J'ai essayé de compter depuis cet été le nombre de polémiques qu'il y avait eu autour des Jeux Olympiques. J'ai dépassé le nombre de 10. Ça m'a frappé avec le terrible attentat de la semaine dernière au métro Bir Hakeim. Tout de suite, la polémique, oh là là, c'est près de la Tour Eiffel, c'est près de la Seine, est-ce que c'est bien raisonnable de faire cette cérémonie d'ouverture? Alors qu'une semaine avant, le préfet de police avait présenté le périmètre de sécurité exactement à cet endroit en disant à cet endroit, endroit-là, on ne pourra pas passer, tous les gens seront fouillés, il y aura besoin d'un QR code. Et là, polémique, oh là là, QR code, retour des restrictions type Covid. Donc, quel que soit le trop sécuritaire, pas assez sécuritaire, on est voilà, on n'est jamais content. La question, c'est d'essayer de savoir pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de notre caractère français hein, qui aime dénigrer, c'est un peu triste. Il y a sans doute le fait que... Le gueuloir réfractaire.
Excusez-moi, mais enfin, il y a quelque chose de quand même absurde. Enfin, à dire aux Français, il y a les JO, vous prendrez moi le métro, vous ferez du télétravail. Enfin, il y a quand même une inversion des valeurs à l'approche des Jeux Olympiques qui, moi, me sidère en leur disant, ben, on n'aura pas
faut
la...
Il faut bien organiser les choses.
Il y a l'événementialisation de la vie parisienne, parce qu'il y a des événements tout le temps maintenant. Les Jeux Olympiques, on explique aux gens, ben, vous serez en télétravail et vous prendrez moi le RER. Débrouillez-vous.
Il y a des vrais sujets. Il y a des vrais sujets. Par exemple, moi, je trouve que la façon dont on a réquisitionné les logements étudiants en leur disant c'est comme ça, c'est pas autre chose, et voilà un billet pour les Jeux Olympiques, alors que par définition, ils ne seront plus logés à Paris, donc ils ne pourront plus aller voir les épreuves. Donc, il y a, et puis peut-être effectivement, la circulation. Mais globalement, on aime abîmer des choses qui vont sans doute être défaites. On le fait pourquoi ? On le fait peut-être par tempérament, peut-être aussi parce que ça a beaucoup été instrumentalisé politiquement. C'est vrai que Emmanuel Macron en a fait le cœur de son quinquennat, et du coup, quand Anne Hidalgo cherche à se différencier, à faire oublier son voyage, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attaque les JO parce qu'elle sait que ça attaque Emmanuel Macron. Il y a aussi l'enchevêtrement des compétences. Hein. Sur les transports, c'est vraiment ça. Chacun ouvre son parapluie. C'est pas moi, c'est la RATP, c'est l'Île-de-France, c'est l'État. Donc c'est l'autre sport français.
Moi, je suis comme vous, David, j'ai lu l'édito cette semaine dans les Échos qui montrait ce JO bashing. En effet, moi je retiendrais simplement une autre explication. Il y a tout ce que dit Cécile, bien sûr. Quant à vous, vous campez très bien le français réfractaire, hein, le gaulois réfractaire.
Ah, je suis rebroussier. Je suis rebroussier sur cette affaire.
Dès lors qu'on change un petit peu l'univers, qu'on change un petit peu l'ordinaire. Hop,
non, mais je pense à Philippe Muret. Festivus. L'événement, toujours l'événement qui empiète sur la vie quotidienne des gens.
Ce n'est pas une référence pour tout le monde. Mais simplement, vous vous rappelez peut-être pas ça, vous êtes tous très jeunes, mais 1989, c'est la célébration
du bicentenaire.
Du bicentenaire de la Révolution. François Mitterrand en fait une fête grandiose, et ça marque un peu l'apogée de Mitterrand, président, ainsi de suite. De la même façon, Emmanuel Macron veut faire des Jeux Olympiques, un petit peu le point d'orgue de ces deux mandats, quelque chose de très fortement symbolique. Alors du coup, parce que c'est lui, alors on lui tombe dessus à bras raccourcis et on veut absolument gâcher la fête. Mais une fois que les athlètes seront là et que les compétitions démarreront, je pense que tout ça sera oublié. Il n'empêche que parce que c'est Macron, déferlement de...
Mais parce que c'est la France, monsieur Colombani, c'est pour ça qu'on râle pour tout et son contraire. On ne râle pas parce que Notre-Dame, eh bien, ce sera probablement prêt l'année prochaine, et ça, il y a de quoi se réjouir, et c'est pour ça que je vous ai choisi le choral du Veilleur de Bach pour terminer cette émission. On termine en retard, mais c'est pas grave, c'est pour Bach et c'est pour vous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.